La vie, elle a repris pour lui. D'un côté, il allait à la pêche, il sortait avec ses copains ici au village. Il refaisait les balles.
Une véritable boucherie.
On voit toujours ma femme allongée par terre, ce couteau porté dans le dos.
On a voulu effacer le visage de cette fille.
J'avais la rage. Dans ma tête, j'ai dit, je vais tuer celui qui a fait ça.
C'est un très proche, très très proche, la famille.
Je rentre dans un calvaire incroyable. Je vais aller jusqu'où comme ça?
Il n'y a pas de meurtrier, ils ont continué l'enquête jusque quand ils trouvent l'assassin.
L'affaire Even, c'est une enquête rocambolesque et c'est l'incroyable combat que mène un homme depuis 25 ans pour découvrir le meurtrier de sa femme. Samedi 9 mars 1991, Benestroff, un petit village de 500 âmes situé à 50 km de Metz. Hervé Even, un menuisier de 25 ans, se prépare à aller au travail à l'aube.
Moi, je me lève toujours à 5h du matin, comme d'habitude. Je prépare mon déjeuner, mon goûter, mon casse-croûte pour le travail, et puis voilà.
Dans la chambre d'à côté, sa jeune épouse Michel dort paisiblement. À 5h45, Hervé Even laisse l'unique jeu de clés de la maison sur la table et claque la porte derrière lui. À l'extérieur, son beau-frère Gilbert Potier, le frère de sa femme, l'attend dans sa voiture.
On est parti au boulot et on devait commencer à 6 heures.
Les deux hommes travaillent ensemble dans une fabrique de cercueils à 10 km de là.
Arrivé là-bas, la porte de l'atelier était ouverte, on est rentré.
On a une carte qui pointe tous les jours de la semaine. Et on a juste à passer dans la machine et puis on va sur notre travail.
Ce matin-là, Hervé et Gilbert pointent donc précisément à 5h53. 6 heures plus tard, à midi, la journée d'Hervé et de Gilbert est terminée. Les deux hommes reprennent la route. Et ils sont bien loin d'imaginer ce qui les attend dans la petite maison de Benestroff.
Je me gare devant la maison, en face de la porte. Bon, et je dis, bon week-end, ou je sais plus ce que je lui avais sorti. Hervé sort de la voiture.
Je suis allé sonner à la porte d'entrée. Ça ne répondait pas.
Étrange. D'habitude, à midi, c'est Michel qui ouvre la porte à son mari. Mais là, comme il n'a pas les clés, il est forcément obligé de sonner. Seulement, personne ne va répondre.
Donc je me suis dirigé vers la fenêtre, j'ai vu qu'elle était entrouverte. Donc je l'ai poussée, j'ai escaladé la fenêtre et puis je suis rentré.
J'étais en train de mettre la vitesse pour partir et d'un coup j'entends hurler, j'entends hurler Hervé. Et j'ai même pas eu le temps d'enlever la vitesse, j'ai calé quoi. Et je suis rentré.
Dans la cuisine, les deux hommes découvrent une scène de violence insoutenable. Michel Even est allongé sur le sol, inanimé.
Je vois toujours ma femme allongée par terre, C'est ma seule image que j'ai depuis ce jour-là. Dans une mare de sang, ce couteau porté dans le dos.
En voyant le couteau dans le dos, sous le coup, j'étais très choqué. Et c'est pour ça que je me suis accroupi et j'ai soulevé sa tête. J'ai même pas vu Michel. La tête était remplie de sang, de filaments. C'était coagulé, quoi. Je comprenais pas. J'avais la rage. Dans ma tête, j'ai dit, je vais tuer celui qui a fait ça. Ouais.
À ce moment-là, je savais plus où j'étais. Je me suis demandé qu'est-ce qui puisse m'arriver. Quel malheur.
Hervé Even est en état de choc. Gilbert, le frère de Michel, appelle les gendarmes et prévient ses parents. En un instant, la nouvelle du drame fait le tour du village.
Ça a été une traînée de poudre. Hein. Ça s'est tout de suite su et tout le monde converge vers la maison.
Arrivés sur place, les gendarmes de la brigade locale sont stupéfaits.
Ils découvrent une véritable boucherie.
Le corps est à plat ventre et il entrave la porte d'entrée.
Michel Even est encore en pyjama. Elle est dans une mare de sang.
Il y a un rondin de bois qui a servi à la massacrer à la tête. Hein, elle a le crâne, j'allais dire, enfoncé. C'est pas beau à voir.
De toute évidence, le meurtrier a frappé violemment Michel Even avec une bûche de bois, puis l'a égorgé avec un couteau de cuisine qu'il a ensuite planté dans son dos. Face à l'horreur de ce crime, les gendarmes locaux sont dépassés. L'enquête démarre donc dans la confusion la plus totale.
La scène de crime n'est pas gelée et il y a même plusieurs militaires de la brigade territoriale qui rentrent et qui se promènent sur la scène de crime. Au bout d'un certain temps, après avoir pataugé dans tous les sens du terme sur la scène de crime, il y en a quand même qui décide d'appeler la section de recherche. Mais ça fait déjà une bonne heure qu'ils sont sur le terrain.
Les enquêteurs de la section de recherche de Metz prennent l'affaire en main. Lors des premières constatations, ils vont trouver un certain nombre d'indices, et notamment sur l'arme du crime.
Il y a une empreinte sur le couteau.
C'est une empreinte de pouce. Et ça permettra de faire un certain nombre de comparaisons.
L'auteur du crime a aussi laissé des traces dans la maison, et en particulier dans la salle de bain.
On constate effectivement traces de sang dans le siphon de la baignoire. Ce qui veut dire qu'on a lavé quelque chose.
Le tueur a-t-il lavé ses propres vêtements tachés de sang ? Possible.
Sur le mur de façade, à l'aplomb de la fenêtre, il y a quelques petites gouttes de sang qui ont perlé, vous savez, un petit peu comme la cire sur une bougie qui fond.
Visiblement, le meurtrier se serait enfui par la fenêtre de la cuisine. Mais pour les gendarmes, il ne s'agit pas d'un crime de rôdeur, et cela pour une raison simple. Aucune serrure de la maison n'a été forcée.
Il n'y a aucune trace d'effraction. Je répète bien, ni dans les fenêtres, ni dans les portes, il n'y a rien.
Rien n'a été fouillé. On imagine effectivement que ce ne soit pas le crime d'un rôdeur, d'un voleur, un cambriolage qui s'est mal passé.
Une victime massacrée et aucune effraction. À l'issue de ces premières constatations, les gendarmes ont déjà une intime conviction. Le tueur connaissait forcément sa victime. Sur les lieux du drame, les principaux témoins, Gilbert, le frère de Michel, et Hervé, le mari, sont interrogés par les gendarmes.
Ils ont commencé à poser des questions. Comment ça a pu se passer ? Où vous étiez ? ce qu'on a fait le matin, si on n'avait pas des soupçons sur quelqu'un, si on n'avait pas des trucs.
Les deux beaux-frères disent la même chose. Il est passé me prendre, j'étais devant la maison, mon petit sac, mon casse-croûte. Je suis monté, on est allé faire nos heures, on est revenu, il était midi 10, je crois, le temps de revenir. Et puis, c'est là qu'on a ouvert la fenêtre.
À la gendarmerie, l'audition des deux hommes se poursuit.
Et ils nous ont interrogés encore et puis ils nous ont déshabillés pour voir si on n'avait pas des traces suspectes ou des trucs.
Et qu'est-ce qu'ils ont trouvé?
Rien du tout.
Dans le village, le meurtre barbare de Michel Even hante tous les esprits. Car la jeune femme de 25 ans était connue et appréciée de tous. Issue d'une famille modeste, Michel est la dernière d'une fratrie de 7 enfants. Et elle était très proche de son frère Gilbert, de 9 ans, son aîné.
Michel, ouais, c'était la petite dernière et la plus gâtée. Parce que c'était la plus jeune, elle s'éclatait bien. Des fois, elle me disait, viens, on va faire un tour en moto. Bon, je roulais très vite. Elle venait avec moi, elle était contente. Ouais, vas-y, roule plus vite, j'ai pas peur. Je l'adorais.
Michel a commencé à travailler très jeune comme ouvrière dans une usine de plastique de la région. La jeune femme était dotée d'une très grande ambition.
Elle voulait arriver à quelque chose, à ramener plus d'argent possible à la maison pour arriver à montrer à mes parents qu'elle s'en sortait bien et qu'elle arriverait à quelque chose.
C'est à 23 ans que Michel rencontre Hervé dans un petit café de Benestroff. Entre les deux jeunes gens, c'est le coup de foudre.
C'est une fille qui était très charmante pour moi. On a sympathisé ensemble et puis on a pu arrêter de se voir.
Et un an après leur rencontre, Hervé et Michel se marient.
Je me souviens très bien, on avait invité tous ses collègues, tous mes collègues.
C'était un très beau mariage. Michel était content, elle rayonnait de joie et tout. Franchement, c'était bien.
On a bien fait la fête et tout. C'était très, très, très bien.
Le couple s'installe à Benestroff dans cet immeuble au rez-de-chaussée. Pendant des années, Michel et Hervé vont vivre une vie paisible et calme, sans aucune folie.
On voyait pas beaucoup d'amis. C'était la petite vie tranquille. C'était une femme d'intérieur, déjà. Elle cuisinait bien. Elle faisait tout. Son ménage, c'était vraiment une femme parfaite, quoi.
Elle aimait les fleurs, elle aimait les jardins. Elle aimait les balades, puis elle aimait bien venir chez moi. On faisait du tricot, on faisait des... Ça l'intéressait.
De l'avis de tous, Michel était donc une jeune femme à la vie bien rangée. À tel point que les gendarmes vont se demander si elle n'avait pas des secrets à cacher. Mais en vain.
C'est pas une fille à aventure, c'est pas une fille à liaison, à avoir un amant, c'est une fille extrêmement rangée, calme.
On n'a jamais retrouvé d'amant, prétendu amant, quoi, je veux dire. Ou de relation extra-conjugale. Ça n'apparaît pas.
Apparemment, rien dans la vie intime de Michel Even n'explique une fin aussi tragique. Les gendarmes n'ont donc pour le moment pas le moindre élément pour orienter leur enquête. Et c'est Hervé, le mari, qui va, lors de son audition, aiguiller les enquêteurs vers une personne qui avait peut-être des raisons d'en vouloir à Michel Even.
Parmi les choses que Hervé va leur raconter, il y a une histoire, quelques difficultés avec un garagiste du coin.
Le conflit remonte à 1989, 2 ans avant le meurtre de Michel. Une affaire en apparence anodine.
Je venais d'avoir mon permis. Avec mon père, on a vu que le garagiste d'à côté de chez moi, il réparait une voiture qui m'a plu quand elle était finie. Je l'ai donc achetée. Quelques mois après, le moteur a cassé.
Michel a dit c'est pas normal, il s'est fait arnaquer.
Il l'a vendu à 40 000 km alors qu'elle avait 100 ou 240 000 km. J'ai été lui demander s'il voulait bien la réparer. Mais il n'en a jamais tenu compte, il a lui donné des signes de vie, rien.
Michel, furieuse, avait insisté pour porter plainte et le couple avait finalement obtenu gain de cause contre le garagiste.
Il a été condamné à rembourser cette voiture et puis à l'interdiction de la revente du véhicule.
Alors, le garagiste aurait-il tué Michel pour se venger ? La piste semble crédible et le garagiste est immédiatement entendu. Seulement, les enquêteurs vont se rendre compte qu'ils sont dans une impasse.
On demande à la brigade locale quel est ce garagiste, est-ce qu'il est véreux, pas véreux, etc. Il est entendu. Il est entendu dans le cadre de l'enquête avec son fils, du reste. Et il a un alibi.
Le garagiste était en famille, ses proches confirment. L'homme est donc mis hors de cause. De nouveau, l'enquête est au point mort. Mais Hervé, le mari, n'a pas dit son dernier mot. Il dévoile que depuis quelque temps, quelqu'un en voulait à sa femme. Et elle se sentait d'ailleurs de plus en plus épiée et menacée. Preuve en est, par exemple, l'état dans lequel Michel va retrouver sa voiture à plusieurs reprises.
Un matin, on veut partir au travail. On remarque que la voiture était rayée tout autour. C'est vraiment un acharnement sur cette voiture, quoi. C'est vraiment acharné, à plusieurs reprises.
Alors, toujours plus de rayures. Après, c'est les pneus crevés. Après, c'était les radiateurs crevés. Après, c'était... Ils ont foutu les phares encore en bas. Et après, ils ont à nouveau recrevé des pneus. Quand elle recevait ses coups sur la voiture, alors là, c'était des... Là, elle était hors d'elle, elle était furax. Hein.
C'est comme si on lui touchait à sa poupée, elle. La voiture, pour elle, c'était tout. Elle va la payer pendant 2, 3 ans ou 4 ans. C'était une voiture qui coûtait cher et elle supportait pas. C'est vraiment lui faire du mal au cœur.
Désemparés, Michel et son mari Hervé déposent plusieurs plaintes.
À la gendarmerie, on dépose des plaintes et des plaintes qui ne servent à rien parce qu'il ne faut pas de recherche.
Personne n'a enquêté, personne n'a rien fait, quoi.
Et au fil des semaines, traumatisé par cette menace pressante, Michel aurait changé d'attitude.
Elle l'a vécu comme une forme d'agression. Mais justement, je pense que cette forme d'agression ne pouvait que déboucher sur autre chose, c'est de se barricader encore plus, au sens matériel du terme. Hein, c'est... Oui, il vivait vraiment sous une cloche, hein, dans une bulle. Hein.
Elle fermait tout à clé. Elle avait peur. Elle avait peur. Elle avait peur qu'on s'en prenne à elle. Elle avait peur.
Elle se méfiait. On était menacés.
À peine 3 jours avant sa mort, les pneus de sa voiture sont de nouveau crevés. Ce sera l'ultime dégradation sur le véhicule. Alors, y a-t-il un lien entre ces actes de vandalisme et le meurtre ? L'entourage de Michel en est convaincu.
Pour moi, la personne qui a fait ça, elle savait très bien comment s'y prendre. Et elle savait exactement où on était. Où il fallait nous connaître par cœur.
Celui qui a fait ça à la voiture, c'est lui qui l'a tué. J'ai toujours dit ça. C'est la même personne. Il s'est acharné sur la voiture, il s'est acharné sur elle.
Seulement, pour les enquêteurs, cette hypothèse est jugée peu crédible et sans fondement.
Ils se sont dit, ça va nulle part. Du pneu crevé à des coups de couteau, il y a quand même un sacré fossé.
D'autant qu'une nouvelle piste plus sérieuse va voir le jour, et cela grâce aux résultats de l'autopsie. Selon le médecin légiste, la violence avec laquelle Michel a été tué laisse penser qu'il s'agit en réalité de l'acte d'un proche.
Saint-Quentin coup de couteau, un égorgement, des coups dans la tête de rondins, de bûches, un acharnement pareil, c'est rare. Hein.
On a voulu effacer l'image, la photo, le visage de cette fille, de gommer.
Là, on a vraiment le sentiment d'un acharnement, de quelqu'un qui en veut à la victime. Et donc, tout naturellement, lorsqu'on constate ça, on se dirige vers la piste du crime passionnel.
Et forcément, qui dit crime passionnel, dit l'acte d'un intime. Tous les regards se tournent alors vers le mari, Hervé. Il est le dernier à avoir vu son épouse vivante et depuis le début, son comportement intrigue.
Comme on dit à la campagne, c'est un taiseux. Hein. C'est pas quelqu'un qui s'exprime beaucoup, qui marque beaucoup ses sentiments.
Il a l'air d'être
en dehors. On ne voit pas quelqu'un effondré, c'est sûr.
Et si Hervé avait tué Michel avant de partir travailler à la menuiserie? C'est une hypothèse plausible, car l'heure de la mort de Michel n'a jamais été déterminée avec précision.
Le médecin légiste qui a autopsié Michel Evans s'est jamais avancé sur l'heure de la mort. Il n'a pas pu, il n'a même pas donné une fourchette.
Et pour cause, dès le début, l'enquête a démarré dans une certaine confusion, notamment lors des premières constatations sur la scène de crime.
La magistrate du parquet de permanence oublie de faire appeler un médecin légiste.
Et ça, c'est terrible parce que le médecin légiste est le seul qui aurait pu, par un examen très simple de prise de température et fixer de façon très précise l'heure de la mort.
Dès lors, Michel aurait très bien pu être tué dans la nuit par son mari Hervé. Et contrairement à ce qu'il a déclaré, il aurait pu partir travailler une fois son crime commis. L'hypothèse séduit les gendarmes. D'autant que dans l'entourage amical du jeune couple, les langues commencent à se délier. Entre les jeunes mariés, tout n'était pas si rose. Michel était très autoritaire et cela agaçait Hervé.
Elle est une maîtresse-femme, c'est un petit bout de femme comme ça, mais qui mène sa barque. Qui, à l'évidence, porte le pantalon dans le couple. Dès qu'il voulait aller à la pêche, elle lui donnait des corvées à faire. Il prenait ça pour des corvées. Et ça revenait, c'était trop répétitif et ça commençait à l'agacer.
D'après certains proches, ces tensions se soldaient par de violentes disputes, comme celles qui auraient éclaté seulement 4 jours avant le drame. Gilbert, le frère de Michel, en a même été le témoin.
Je rentre à l'intérieur. Je regarde la télé, je dis « qu'est-ce qui se passe là ? Il y a du verre par terre et tout. » Elle m'explique que Hervé, elle avait dit à Hervé d'aller bêcher le jardin. Hervé, elle a dit « moi je regarde mon foot, je m'en fous de ton jardin. » Elle a éteint la télé, il a explosé la télécommande dans la télé. Et sur ceci, Hervé est parti.
C'est arrivé. C'était pas vraiment une dispute, c'est arrivé une fois.
Hervé, le mari, devient le suspect numéro 1. Et à partir de cet instant, tout va se retourner contre lui. Un nouveau résultat d'expertise va venir conforter les soupçons des enquêteurs.
Une empreinte de pouce et les résultats du labo sont formels. Il y a 6 points de comparaison. Qui disent que c'est le pouce d'Hervé Evans.
Seulement, 6 points de comparaison entre l'empreinte du couteau et le pouce droit d'Hervé Evans, cela ne constitue pas une preuve. Car la loi est formelle, il en faut 12.
Donc ça ne tient pas, ça ne vaut rien. Juridiquement parlant, ça ne vaut rien.
Mais qu'importe pour les enquêteurs, il n'y a pas de fumée sans feu.
Les gendarmes se disent que 6 sur 12, c'est mieux que rien du tout. Ils considèrent que l'empreinte retrouvée sur le manche du couteau est l'empreinte d'Hervé Evans.
Les gendarmes n'ont peut-être pas de preuves suffisantes, mais selon eux, le puzzle se met en place. Et d'ailleurs, tous les indices concordent.
Michel n'aurait pas ouvert à un inconnu. Quand elle voyait quelqu'un qui sonnait chez elle ou toquait à la fenêtre, elle ouvrait la fenêtre pour voir « Ah, c'est Gilbert, c'est Dominique », parce qu'elle n'aurait pas ouvert sans voir qui était là.
L'empreinte, pas d'effraction, pas de vol, pas de viol. Le mari, sa rentrée par la fenêtre qui n'est pas habituelle, tout leur montre Hervé du doigt.
Il n'y a pas de matière à aller vers d'autres pistes que le mari finalement.
Et de manière incroyable, c'est la propre mère d'Hervé qui va renforcer la conviction des enquêteurs. Colette, elle aussi, n'est pas tout à fait sûre qu'Hervé ait dit la vérité.
Elle était sur écoute téléphonique et on entend, elle dit qu'elle a des doutes. Elle a des doutes sur son fils, sur la sincérité de son fils.
J'ai dit, ça y est, il y a eu la bagarre de nouveau entre eux. C'est ça que j'ai resté comme ça. J'avais ça dans ma tête, c'est tout.
Pour les gendarmes, Hervé aurait tué sa femme dans un accès de rage incontrôlable. Car l'homme aurait, semble-t-il, été frustré par une épouse autoritaire.
Il est cerné par les interdits, Hervé. Il n'y a que quand elle veut faire quelque chose qu'il a le droit de le faire. Alors, il encaisse.
Et dans un moment de colère sublimissime, il l'a tué.
Le 19 mars 1991, 10 jours après le meurtre de Michel, Hervé Even est placé en garde à vue à la gendarmerie de Metz. Les interrogatoires commencent et Hervé nie tout en bloc.
Pour eux, ils se sont mis dans la tête que c'est moi. Et voilà, ils croient, ils veulent avoir raison. C'est tout.
Puis il se défend simplement en disant c'est pas moi, en plus j'étais au travail. J'ai découvert ma femme à midi quand je suis revenu. Et point barre, quoi.
Les heures passent. Hervé Even campe sur ses positions.
Il est capable de nier des évidences, ou alors c'est le mutisme le plus total. Voilà. On l'interroge, on lui montre des tas de choses. Il a lu des questions, ou alors il va comprendre. Voilà.
Il me disait même, dis que c'est toi, tu prendras 5 ans parce que tu diras que c'est toi. Tu prendras 5 ans et pas plus. Mais si tu n'avoues pas, tu prendras tes 20 ans ou 40 ans. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Je vais quand même pas avouer un crime que je n'ai pas commis quand même. Mais je tiendrai tête jusqu'au bout.
Malgré ses démentis et le manque de preuves, Hervé Even est déféré devant la juge d'instruction à l'issue de sa garde à vue. La nouvelle fait la une des journaux de la région.
Bonjour à tous et on commence avec un rebondissement dans le crime de Benestroff en Moselle. Après une garde à vue de 48 heures, Hervé Even a été inculpé ce matin d'assassinat sur sa femme.
L'homme est placé en détention provisoire à la prison de Metz. Les parents d'Hervé sont atterrés.
Il était doux, l'Hervé. Hein. Il n'a jamais frappé ses sœurs, même pas ses frères. C'est rare hein, qu'ils se bagarrent. Mais j'ai dit, il ne voyait pas clair. J'ai dit, il ne voyait pas clair. Et moi, j'ai dit, c'est pas possible.
Ça fait mal, ça. Ça fait mal. Quand ils l'ont inculpé, on se demande où on va. Pourquoi ça nous arrive à nous?
Du côté de la famille de Michel, la victime, on a aussi bien du mal à croire en la culpabilité du mari.
C'est pas possible que leur gendre ait fait ça. C'est un garçon propre sur lui, qui dit rien, qui est toujours silencieux, puis qui d'un coup aurait donné 51 coups de couteau, des coups post-mortem, aurait explosé la tête. C'est vrai que ça jure.
On pensait vraiment pas à ça. On le protégeait, on essayait de l'aider, parce qu'il a quand même perdu sa femme et tout.
Il rentre dans un calvaire incroyable. Il fait des coups comme ça. Franchement, ils veulent vraiment faire de moi ce que je ne suis pas.
Mais le cauchemar ne fait que commencer, car un nouveau témoignage va venir accabler le mari de la victime. Ce nouveau témoin qui se présente à la gendarmerie s'appelle Gertrude Kremer. Elle a 67 ans.
Gertrude Kremer, en fait, c'est la voisine du couple Even, la voisine du dessus.
C'est quelqu'un sans histoire, qui ne veut pas d'histoire et qui veut sa tranquillité.
Ce que Gertrude Kremer va révéler aux enquêteurs est tout simplement incroyable.
La nuit du meurtre, Elle se couche vraisemblablement de bonne heure, comme toutes les personnes assez âgées.
Elle entend, dans la nuit, elle entend un très gros bruit qu'on va essayer de lui faire détailler. Elle sent comme un tas de bois qui tombe.
Qu'est-ce qu'elle fait? Elle descend les escaliers.
Demande si tout va bien, qu'est-ce qui se passe. Et là, une voix masculine lui répond.
Tout va bien, Madame Kremer. Vous pouvez retourner vous coucher.
Et cette voix d'homme, Gertrude Kremer, est catégorique, c'est la voix d'Hervé Even.
Qui lui dit, c'est rien, il n'y a pas de problème.
Elle remonte.
Point mort après, plus rien. Plus rien entendu. Pas bouger les meubles, pas... rien.
Non seulement Gertrude Kremer aurait donc entendu Michel se faire assassiner, mais elle est catégorique. C'est bien la voix d'Hervé qui lui a répondu à travers la porte.
C'est le témoignage qui manquait aux gendarmes pour bétonner leur dossier.
Évidemment, les gendarmes se jettent sur ce témoignage providentiel. Mais dans la précipitation, ils omettent un détail qui pourrait bien tout changer. Car lors de sa déclaration, Gertrude Kremer va révéler aux enquêteurs un nouvel élément crucial qui peut cette fois innocenter totalement Hervé Even.
Madame Kremer va indiquer aux gendarmes que lorsqu'elle entend ce bruit et qu'elle va descendre, elle se souvient très bien d'avoir regardé son réveil.
C'est un réveil avec deux aiguilles. Une petite aiguille pour les heures et une grande aiguille pour les minutes. Et elle dit, il est 6h05.
Quand elle est réveillée par ces bruits sourds, Gertrude Kremer dit qu'il est 6h05 du matin.
À 6h05, Hervé Even est à l'usine puisqu'on sait qu'il a pointé à 5h53.
S'il est 6h05, quand le tas de bûches fait cet énorme bruit, ça ne peut pas être Hervé Even.
Hervé Even est a priori lavé de tout soupçon. Mais les enquêteurs restent convaincus de tenir leur coupable. Pour eux, le mari a pu s'éclipser juste après avoir pointé à l'usine à 5h53. Puis il serait allé tuer sa femme et serait discrètement revenu travailler.
Ils vont faire des essais, donc avec des véhicules de même cylindrée, dans des conditions de climatique et de visibilité équivalentes, etc.
Et dans les conditions optimales pour aller le plus vite possible en prenant tous les risques, ils coupent la circulation des deux côtés, et puis il y a un Fangio de la gendarmerie qui essaie de faire un chrono. Et dans tous les cas de figure, on n'arrive pas à destination en temps utile, loin s'en faut.
Hervé Even n'a matériellement pas eu le temps de revenir chez lui avant 6h05, heure à laquelle la voisine entend le bruit qui l'a fait se lever. Qu'à cela ne tienne, pour les enquêteurs, c'est donc la voisine, Madame Kremer, qui s'est sans doute trompée d'heure.
Ils imaginent que Gertrude Kremer, qui pouvait prendre effectivement quelques médicaments des fois pour bien dormir, s'était trompée d'heure et avait confondu la petite et la grande aiguille à son horloge.
Dans un cas, il est minuit et demi, dans un cas, il est 6h05. S'il est 6h05, il est impossible que ça soit Even. S'il est minuit et demi, c'est complètement différent.
Dans ce cas-là, toutes les pièces du puzzle étaient assemblées et désignées Hervé Even comme le coupable.
Hervé Even estime qu'il est victime d'un incroyable acharnement des enquêteurs pour faire de lui le coupable. Du fond de sa prison, il clame son innocence. Mais de son côté, Gertrude Kremer, la voisine, persiste et signe.
Elle s'arc-boute et elle ne lâchera pas un pouce de terrain. Il était 6h05.
Fort de ce témoignage, l'avocat d'Hervé Even dépose immédiatement une demande de remise en liberté. Car selon lui, l'accusation contre son client est sans fondement.
L'horaire, il était à son travail, il ne pouvait pas revenir. Il n'y a mais pas le moindre bribe d'indice à charge, seulement l'idée peut-être d'un crime passionnel. Et pour les gendarmes, le crime passionnel égale le mari.
Mais la demande est rejetée par la juge d'instruction. Hervé Even reste en prison, désespéré.
Je me suis dit, je suis perdu, je vais y rester. Je vais pourrir là-dedans.
Un mois après le meurtre de sa femme, Hervé Even est toujours en prison. Et rien, ni personne, ne semble être en mesure de l'en faire sortir. Du moins, jusqu'à ce qu'un nouveau magistrat prenne l'affaire en main. C'est Gilles Bertil, alors avocat général à Metz, qui va se plonger dans le dossier et il va tomber des nues.
Je me suis aperçu qu'il y avait quand même des lacunes graves qui ne permettaient pas de se faire une religion dans un sens ou dans un autre.
On est dans le conditionnel le plus parfait. C'est-à-dire qu'on part de thèses les plus hypothétiques et on attente à la liberté d'une personne qui a un casier judiciaire vierge pour le seul prétexte qu'il est le mari et que c'est un crime passionnel.
Qu'a-t-on pour condamner un homme, si ce n'est au terme d'un raisonnement en disant « ça ne peut être que lui ben, ». Ça ne suffit pas. Et j'espère que ça ne suffira jamais.
Gilles Bertil va alors pointer les nombreuses lacunes qui ont émaillé l'enquête et il va requérir la libération d'Hervé Even.
La justice, c'est quand même pas une loterie. Si les éléments fondamentaux qui permettent d'incriminer quelqu'un ne sont pas au rendez-vous, eh bien, ils font tirer les conséquences. C'est à l'accusation de rapporter la preuve. Eh bien, j'étais pas en mesure de le faire. Donc, à partir de ce moment-là, il faut être logique. On n'est pas là pour couvrir n'importe quel travail insuffisant.
Le 18 avril 1991, après un mois passé en détention, Hervé Even est libéré.
Commencer à reprendre espoir.
Pour sa famille, soulagée, les retrouvailles ont tout de même un goût amer.
Quand il est sorti, ça m'a choqué parce qu'il avait vachement maigri. Son visage, il n'était plus pareil. Il n'était plus joyeux comme avant, ça se voyait.
Pour la famille de Michel, la victime, c'est l'incompréhension.
Ils ne comprennent plus parce que ceux-là même qui leur ont fait comprendre que ça pouvait être Hervé, le remettent dehors. Ah, ils comprennent plus.
J'étais carrément à plat, quoi. Ça m'a choqué.
Ça s'est dégradé à partir du moment que j'étais vraiment inculpé de ça. Quand je suis sorti de prison, j'ai décidé de couper les ponts et terminé, plus rien.
Rejeté par sa belle famille, Hervé décide de leur tourner le dos et tente tant bien que mal de retrouver une vie normale.
Il faut tenir. La vie, elle continue.
La vie, elle a repris pour lui. D'un côté, il allait à la pêche, il sortait avec ses copains ici au village. Il refaisait les balles.
Pour autant, le jeune veuf reste mis en examen pour le meurtre de son épouse. Mais la chance va finir par se mettre de son côté. La juge d'instruction en charge de l'affaire organise une reconstitution. Un test vocal en présence de l'unique témoin, Madame Kremer. Souvenez-vous, elle dit avoir entendu Hervé Even à travers la porte la nuit du meurtre.
Ce qui était le plus important, c'était de se rendre compte si elle pouvait reconnaître la voix d'Hervé. C'est ça qui était déterminant, puisque quand elle a entendu, dès la première fois, elle dit l'heure, et elle dit, c'est Hervé qui m'a répondu.
Ils ont demandé à Gertrude Kremer de se placer comme elle avait fait le jour des faits. Elle s'est mise à un moment donné derrière la porte, et Hervé Even et des gendarmes vont parler.
Madame Kremer, nous on est avec elle, hein, et on regarde avec Madame Ramé, qui était juge d'instruction à l'époque. On entend, alors là, oui, oh ben je reconnais pas bien. Non, là je vois pas où elle dit, c'est... Ah ben c'est cette voix-là.
Et elle va reconnaître une voix, mais ce ne sera pas celle d'Hervé Even, ce sera celle d'un gendarme.
Le témoignage de Gertrude Kremer s'effondre. Ce n'était peut-être pas le mari qui était derrière la porte ce matin-là.
Tout le monde était sûr qu'on arriverait au non-lieu, faute de preuves.
Seulement dans cette affaire, rien ne va se passer comme prévu. Et Hervé Even va quand même être renvoyé devant les assises pour le meurtre de sa femme, Michel. Car à l'issue de l'instruction, voici pour les magistrats et les enquêteurs ce qui se serait passé dans la nuit du 8 au 9 mars 1991, à Benestroff.
Le scénario, il est simple. Des disputes auparavant. Une dispute qui dégénère. Alors là, c'est peut-être un geste, peut-être quelque chose de futile, mais ça explose.
Il attrape une bûche, la fracasse à plusieurs reprises sur le crâne de sa pauvre femme. Puis s'empare d'un couteau sur lequel il va laisser une demi-empreinte et il va la planter à 51 reprises.
Ensuite, Hervé Even aurait disposé quelques gouttes de sang sur la façade de la maison pour faire croire à la fuite du tueur par la fenêtre de la cuisine.
Et puis, il prend le temps de se laver, de prendre sa douche, de peut-être se reposer, ensuite de prendre son petit déjeuner.
Et Hervé Even serait donc, après ça, parti au travail comme si de rien n'était. Il serait revenu à la maison avec Gilbert, son beau-frère, et aurait donc aurait mimé la découverte de la scène.
Le procès d'Hervé Even s'ouvre le 27 mars 1996 devant la cour d'assises de la Moselle à Metz. L'enjeu est énorme pour le menuisier de 30 ans.
C'est le procès d'une vie. À cette époque-là, il n'y a pas d'appel. Donc c'est quand même un dossier à un coup. Et là, les faits gravissimes, horribles, font que ce procès, c'est tout ou rien pour Hervé Even. C'est effectivement soit l'acquittement, soit il prend 30 ou perpétuité. Ça peut pas être dans la demi-mesure.
Pourtant, le jeune homme tient à ce procès, car il espère être innocenté, définitivement.
Moi, je voulais aller jusqu'au procès, hein, parce que je sais que c'est pas moi, je veux qu'on prouve vraiment que c'est pas moi. Je suis pas coupable, je suis innocent. Alors qu'est-ce qui peut m'arriver d'autre?
L'audience débute. Seulement lorsqu'Hervé Even fait son entrée dans le box des accusés, son attitude va jouer contre lui.
Il est froid. Du coup, là, par rapport pour les jurés, c'est jamais très bon quand même. Les jurés, ils sont quand même attachés, ils font attention à ça. Donc il ne fait pas passer grand-chose.
Tout le monde n'aime pas passer par là, mais bon, on est obligé.
Malgré le comportement détaché de son client, l'avocat d'Hervé Even va tout tenter pour convaincre les jurés de son innocence. Il insiste par exemple sur les failles de l'enquête, l'absence de légiste et l'impossibilité de dater scientifiquement la mort.
Il se bat également sur l'alibi et sur le mobile. Il n'y a pas de mobile, il n'y a pas de raison objective, même si peut-être qu'ils ne s'entendaient pas tous les jours merveilleusement bien.
C'est alors que Gertrude Kremer, le témoin clé de cette affaire, est appelée à la barre. Et son témoignage va faire basculer le procès.
Elle est dit que c'est pas Even puisqu'elle est sûre de l'heure.
Elle redit avec force. Elle a même cette expression. Je sais très bien que vous voudriez me faire dire qu'il était minuit et demi. Non, il était 6h05.
Pour la défense, c'est du pain béni, quoi. Voilà. Et elle est là, elle est fidèle à ce qu'elle a dit depuis le départ. Elle n'en démord pas.
C'est sûr que son témoignage est très important. C'est le seul témoignage qui est important dans cette enquête. Qui prouve que c'est pas moi.
Un témoignage décisif qui va marquer les esprits. Tant et si bien que l'avocat général va faire un réquisitoire pour le moins inhabituel.
L'avocat général lui-même nous dit qu'il n'a jamais vu plus coupable que mon client, mais ne peut pas le démontrer. Et finalement, il requiert pas de peine en disant qu'il est coupable.
Il ne requiert aucune peine en laissant jurés et magistrats se dépatouiller avec ça.
Le 30 mars 1996, après 2 heures de délibéré, les jurés rendent leur verdict. Hervé Even est acquitté du meurtre de Michel, au bénéfice du doute.
C'est un soulagement. Un grand soulagement.
Pour les proches de Michel, la victime, c'est le choc.
Ils prennent une cathédrale sur les épaules. Ils sont écrasés. Et puis, 20-30 secondes après, il y a un moment de colère.
Ce qui m'a choqué, c'est qu'ils ont tous applaudi. Mais il y a quand même Michel qui est morte. Pourquoi applaudir? Bon, ils ont gagné le procès. Mais c'est un procès avec du sang.
La colère des parties civiles est d'autant plus forte que le crime de Michel reste impuni.
Hervé l'a pas tué, d'accord, mais c'est qui l'a tué? C'est pas normal. Il n'y a pas de meurtrier, ils ont continué l'enquête jusque quand ils trouvent l'assassin.
Pendant plus de 20 ans, rien ne viendra relancer l'enquête. Le crime de Benestroff va peu à peu tomber dans l'oubli. Et c'est à la faveur d'un extraordinaire hasard que l'affaire Even va connaître un ultime rebondissement. En 2014, Kevin Gretten, journaliste du Républicain Lorrain, écrit une série d'articles sur les crimes non résolus dans la région. Et alors qu'il publie un papier sur le meurtre de Michel Even, les réactions ne se font pas attendre.
Des gens m'appellent, me parlent, je reçois des informations sur quelqu'un qui était condamné pour avoir harcelé une de ses collègues de travail. Sauf que ce harcèlement se définit comme par des dégradations de véhicules, notamment.
Or, souvenez-vous, avant d'être tué, Michel Even a vu à plusieurs reprises sa voiture rayée par un inconnu.
C'était à peu près le même genre de dégradation, les pneus crevés, des carrosseries lésées, etc. Donc c'était les mêmes éléments assez troublants que ceux qui avaient été commis 20 ans plus tôt sur le véhicule de Michel Even.
Le journaliste prévient immédiatement les avocats d'Hervé Even, car cet individu n'est pas un inconnu. Il s'agit d'un proche de la victime, un membre de sa famille, dont nous ne pouvons révéler l'identité, car l'homme n'a pas encore été entendu par la justice.
Je suis choqué d'apprendre ça de lui. C'est vraiment étonnant.
C'est une personne qui inspire la crainte. Lorsqu'il est éconduit, il se montre insistant, voire menaçant, et il a des comportements qui peuvent parfois troubler, notamment les jeunes femmes.
Alors, ce proche de Michel peut-il être l'auteur des dégradations sur sa voiture? Est-il lié à son meurtre? La mère d'Hervé Even aurait reçu à ce sujet les confidences de sa belle-fille, Michel, peu de temps avant sa mort.
Elle m'a dit qu'il aurait essayé de draguer, quoi. Comme vous disiez maintenant, draguer. Il a dragué, quoi. Elle veut pas aller chez sa sœur parce que l'autre l'embêtait tout le temps. Là, elle m'a dit ça comme ça. Il m'embête tout le temps quand je suis là-bas.
Ben là, aujourd'hui, on se dit pourquoi elle aurait pas ouvert à un de ses proches, par exemple. Ce qui expliquerait le meurtre sans effraction.
La piste semble tellement crédible que dans la famille de Michel et celle d'Hervé, elle fait l'effet d'une bombe.
On a dit, oh, c'est lui, elle m'a dit non. Moi, je suis tombée sur le cul, quoi, le jour que j'ai appris ça.
La personne-là, j'ai jamais soupçonné du meurtre de Michel.
Et peut-être si c'est lui, il nous aura caché beaucoup de choses. À nous, tous, il nous a tous trompés.
En 2015, 24 ans après la mort de Michel, Hervé Even porte plainte contre X pour homicide volontaire. Une plainte à laquelle le nouveau procureur de la République de Metz décide d'accorder du crédit. Une enquête préliminaire est donc ouverte.
Cette enquête, dans mon esprit, est une enquête plutôt de faisabilité, hein, pour savoir si l'élément nouveau apporté est pertinent et si on a les moyens techniques et humains d'aller au-delà de ce qui avait été fait dans le cadre de l'enquête initiale suivie d'une information judiciaire.
Je reprends espoir, l'enquête va repartir. On espère toujours savoir la vérité. Il faut la chercher. Et il y a des gens qui m'aident aujourd'hui et qui vont m'aider.
Nous procédons par audition successive. D'abord de M. Even, il a été entendu, lui, ça c'est le cas. Et immanquablement, elle sera clôturée par l'audition de la personne suspectée.
Mais pour les nouveaux enquêteurs, le défi est de taille, car 25 années ont passé.
C'est un vieux dossier dont on n'a plus les éléments. Voilà, tout a été détruit, forcément. Même les avocats n'ont plus le dossier. Voilà, c'est compliqué. L'érosion des témoignages, Gertrude Kremer n'est plus là, par exemple. Les souvenirs qui vacillent chez les uns et les autres, forcément.
Les proches de Michel n'ont qu'un seul souhait, découvrir enfin qui a brutalement assassiné la jeune femme le 9 mars 1991.
J'espère qu'un jour on va trouver, même si ça va durer encore 10 ans, j'espère qu'on trouvera. Qu'on saura au moins qui c'est, ça nous soulagera pour toute la famille, pour tout le monde.
Si moi je pourrais donner tout ce que j'ai en argent et tout pour juste trouver une preuve, pour montrer qu'on peut trouver, je donne tout, tout ce que j'ai. Mais c'est tout de suite. Je serai clochard sur la route, mais je saurai qui est le meurtrier de ma frangine.
J'ai jamais fait le deuil de Michel. Je le ferai jamais, peut-être. Parce que l'histoire n'est pas terminée, et le jour que je saurai, peut-être, tout se passera, je sais pas. Mais j'espère qu'on aboutira à quelque chose, quoi. Je veux qu'on aboutisse.